Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes en 2013 en Argentine. Susanna et Valeria sont en couple depuis 10 ans déjà et ont décidé de se marier. Le mariage homosexuel est légal dans le pays depuis 2010. Très vite, elles ressentent le désir d'être mère et souhaitent recourir à la PMA avec un don de sperme. Pas question cependant d'avoir recours à un donneur anonyme. Elles font donc appel à leur ami Hernan, qu'elles connaissent toutes les deux depuis près de 20 ans. Il accepte non seulement de donner son sperme, mais souhaite devenir le père de l'enfant, c'est-à-dire le reconnaître, l'élever, participer à son éducation. Il est ainsi décidé que l'enfant aura deux mères et un père. Jusque-là, la situation n'a rien d'exceptionnel, me direz-vous, enfin si vous regardez un peu autour de vous. Malheureusement, sur l'état civil argentin, il n'y a pas encore de place pour trois parents. Alors, durant la grossesse, les coparents s'organisent. Ils contactent la Fédération LGBT d'Argentine, expliquent leur cas et se préparent à une bataille juridique féroce. À la naissance de l'enfant, baptisé Antonio, il porte le nom de famille de ses deux mères. Une demande est ensuite déposée au bureau administratif de Buenos Aires pour faire reconnaître Hernan comme le père d'Antonio également. À leur grande surprise à tous les trois, l'administration argentine donne une suite favorable. Avoir trois parents n'est pas autorisé par la loi, mais ce n'est pas interdit non plus. L'enfant portera donc les trois noms de famille de ses trois parents. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, Polyparents, deux autres histoires, comme un épilogue à la série PMA hors la loi d'Adila Benedjaizou, un bonus, une suite à une histoire qui n'a pas de fin au fond, puisque c'est la vie. Je deviens lyrique, c'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, c'est Virginie.
Maxime.
Alicia.
Comment vous définiriez le polyamour ?
La liberté d'aimer qui on veut. Dans la transparence et l'honnêteté. Sans mentir, on doit tout se dire en fait. Mais on ne doit pas s'interdire. Mais on doit avancer au rythme de celui qui va le plus lent. C'est le respect total.
Ne pas limiter son cœur à une seule personne.
Ouais.
En travaillant sur la procréation médicalement assistée, je me suis rendu compte qu'on vivait une époque bouillonnante pour la famille, joyeuse et pleine d'inventions. Tellement inventive qu'on manque parfois de mots. J'ai décidé, assez arbitrairement, d'appeler les gens que vous allez entendre des polyparents, parce qu'ils élèvent leurs enfants à plus que deux. Alicia est en couple avec Maxime, ils ont deux enfants en bas âge, et Virginie est mariée à Olivier, avec qui elle a quatre enfants adolescents. Et ils ont décidé de concilier leur vie de polyamoureux et de parents.
On s'est rencontrés grâce à Facebook. Donc on a parlé pendant 3 mois avant de se voir réellement.
C'est par le groupe de rencontres polyamoureux.
J'ai discuté avec Virginie parce qu'Alicia est assez timide. Je l'ai un petit peu poussée à aller vers Virginie. Et après, de fil en aiguille, on a un peu discuté aussi tous les deux. Et on s'est relativement plu aussi tous les deux.
Comme les situations de polyamour sont souvent complexes, je préfère vous préciser les choses. Alicia et Maxime vivent à Paris et Virginie et Olivier vivent à Besançon. Olivier, le mari de Virginie, ne fait pas vraiment partie du groupe polyamoureux. Il est plutôt une sorte d'observateur bienveillant.
Alors, donc la rencontre... Dans la vraie vie, ça s'est passé comment ?
C'est magique, en fait, c'est un week-end, c'était sur un coup de tête, je crois, on a décidé d'aller à Besançon, donc voilà, ça s'est fait tout simplement comme ça.
Ouais. C'était merveilleux, puis ce qui était bien, c'est que même mes enfants étaient contents, en fait, d'avoir du monde à la maison, des enfants, donc voilà, c'était cool.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
Alors, on en a 4, c'est une famille recomposée, 18, 16, 15 et 11. Ils sont tout à fait au courant de notre relation, Max, Alicia et moi. Mais après, mes enfants, ils ont, je leur ai jamais rien caché, en fait. Je leur dis à chaque fois que je suis amoureuse de quelqu'un. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie qu'ils sachent que ça existe. Donc, en fait, c'est des discussions qu'on a régulièrement à la maison. Tout ce qui est amour et sexualité, nos enfants, ils ont le droit d'en parler et on répond à leurs questions. Donc, en fait, je leur ai pas caché ma relation avec Max et Alicia et ils sont contents. Enfin, la réponse des enfants, c'est moi, tant que t'es heureuse, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Et ma fille, elle dit, ah, bah, cool, comme ça, j'ai deux mamans, ça me fera plus de cadeaux.
Ah, puis bah, moi, bah, ils sont arrivés tous les deux, j'étais déjà en poly.
Donc, cette petite, Ellie, elle est née quand?
Elle est née le 25 juin, avec 3 semaines d'avance. J'ai marqué dans ma présentation que j'avais déjà un enfant et que j'étais enceinte du deuxième. Et ça l'a pas dérangée du tout. C'est vraiment comme si qu'elle avait deux mamans, en fait.
Alicia a eu beaucoup de mal pour allaiter.
J'avais déjà beaucoup de mal pour le premier. Puis là, avec les deux, la fatigue et tout, c'est quelque chose de très intense et très fatigant. Du coup, c'est Virginie qui prend le relais.
En fait, je tire mon lait quand je suis pas avec le bébé. Je tire mon lait, je le congèle et je le rapporte.
Donc, c'est vous, Virginie, qui n'avez pas porté l'enfant, oui. Ellie, qui l'allaite.
Oui. En fait, c'était une décision qui a été prise à quatre. Mais j'ai jamais allaité mes enfants parce que j'ai pas été accompagnée sur ça, donc ça a toujours été compliqué pour moi. Et quand j'ai vu Alicia allaiter, j'ai eu une forme de jalousie, puis d'envie. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la jalousie, mais...
Ouais, plus de l'envie, je pense.
C'était aussi. De l'envie, ouais. Et puis, du coup, je leur en ai parlé, et puis on a pris la décision que si c'était possible, du coup, on s'était renseigné, et que je puisse prendre... pouvoir nourrir avec Alicia Ellie. Et en fait, avec la fatigue, comme Alicia n'a plus de lait, ben, du coup, c'est moi qui prends la relève. Alors, je me fais accompagner par la Ligue... Comment c'est ?
Je sais plus le nom.
On dit la LLL. Et qui m'ont dit que c'était possible parce qu'il y avait des mamans qui adoptaient et qui allaitaient leurs enfants, que c'était pas un problème avec la stimulation du sein par un tire-lait. On peut aussi prendre du Motilium, qui aide. Il y a une hormone dedans qui aide à avoir de la lactation et aussi mettre l'enfant au sein. Et du coup, j'ai commencé sans prendre du Motilium parce que j'avais un peu peur. Et puis, chaque jour, je tirais mon lait, on va dire, toutes les 3 heures pendant 15 à 20 minutes. Je faisais une simulation de tétée. Il y a des tire-laits qui font la simulation de tétée toutes les 3 heures.
Sauf la nuit.
Mais normalement, j'aurais dû, mais j'avais... On va dire que j'ai la fatigue et puis voilà.
Bah, tu devais être à quoi 7 fois, un truc comme ça?
Ouais, 7-8 fois, ouais.
7-8 fois par jour.
Au bout de 5 jours, on va dire que j'avais quelques gouttelettes, pas grand-chose, mais... Et puis là, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin, je vais quand même prendre du Motilium parce que ça pousse vraiment... Et puis ça a poussé ma lactation. J'ai gardé quand j'ai commencé à faire 30 millilitres. Ah, après avoir mis Ellie au sein, ça a vraiment déclenché. Quand je mets Ellie au sein, ça n'a rien à voir avec le tire-lait. Quoi. Je sens que j'ai démonté de lait tout le temps. La première fois que j'ai mis Ellie au sein, c'était époustouflant. En fait, c'était, je suis arrivée le soir et j'avais hâte de la mettre au sein pour voir ce que ça faisait, la sensation. Enfin, c'était... Parce que moi, avec le tire-lait, c'est mécanique, donc il n'y a pas de relation. Et quand je l'ai mis au sein, j'ai senti un truc, une émotion en moi qui était tellement forte. Enfin, je ne saurais pas comment l'exprimer, en fait. C'était très, très fort.
Oui, voilà. On dirait bien qu'il y a un petit peu faim. Oui.
Des fois, quand je la mets au sein, au bout de 3-4 tétés, elle a les yeux qui révulsent et elle s'endort profondément. Mais là, à mon avis, elle a autre chose.
Et du coup, comment ça marche maintenant? Vous produisez à peu près combien de lait par jour?
Alors, entre 90 et 120. C'est pas extraordinaire, c'est pas énorme, ça fait pas un biberon, enfin voilà. Mais pour moi, l'important, c'est de garder cette lactation pour pouvoir mettre Ellie au sein. C'est pas vraiment de produire à fond pour qu'elle soit nourrie que à ça. C'est ça, c'est vraiment le lien qui m'importait beaucoup.
Et vous avez pas, enfin pas, là je vais poser une question qui est assez personnelle, c'est-à-dire que moi j'allaite mon bébé et je sais que j'aurais du mal à le laisser allaiter par quelqu'un d'autre. que j'aurais un sentiment mitigé.
C'est peut-être aussi mon côté rebelle qui fait que bah non, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est le bien de mon enfant. Donc, si ça doit passer par quelqu'un d'autre, bah tant pis. Enfin, j'arrivais pas à le faire que ça soit un moment très privilégié parce que bah, j'avais toujours le grand qui était dans mes pattes à ce moment-là. Du coup, les mises au sein étaient devenues très difficiles. Donc, c'est un renoncement pour moi, mais c'est tellement c'est lancé dans l'expérience, du coup, j'ai pas eu la même sensation que pour mon premier à être frustrée d'être obligée d'arrêter parce que j'avais pas de montée de lait.
Et puis cette expérience d'allaitement, et pour moi, voilà, c'est quelque chose que j'avais pas vécu avant. Et puis, on va dire que je suis un peu rebelle de la société, une femme sans utérus qui allait un enfant qui n'est pas le sien.
c'est
mon côté rebelle. Moi, j'ai subi une hystérectomie au mois de mars. Donc, j'ai plus d'utérus. J'ai eu une endométriose. J'avais l'utérus complètement envahi d'endomètre, en fait. Et j'avais des règles tout le temps hémorragiques. Enfin, voilà, c'était juste... j'avais plus de vie, quoi. Plus de vie sexuelle, plus de vie sociale. Enfin, voilà, c'était juste l'horreur. Donc, il fallait enlever. Donc, on a enlevé les trompes, le col et l'utérus. J'avais 33 ans. Ce que j'ai ressenti, c'était à la fois bizarre, c'est que j'avais plus mal, donc c'était cool. Mais je ressentais plus mon corps. Et le fait peut-être de ne plus avoir de douleur, j'avais comme un corps fantôme pour moi. C'est comment est-ce que les gens ils existent sans douleur, en fait. On va dire que des fois, je passais par des phases contentes. Par exemple, je me coiffe le matin et je dis à mon mari, oh, c'est cool, je me coiffe et j'ai pas mal au ventre. Et puis des fois, je vais faire des trucs et je vais me dire, mais il est où mon ventre? Parce que je le ressens plus, j'ai plus mal. Je passais vraiment par deux phases qui étaient vraiment très opposées. Et pourtant, j'étais contente et des fois, j'avais beaucoup de moments de tristesse.
D'accord.
En fait, j'ai retrouvé mon ventre au moment où j'ai mis Ellie au sein. J'avais l'impression d'avoir un nouveau corps, en fait, où il était là et que... Ah, mais en fait, je peux ressentir des choses sans avoir mal. C'est ça. Une émotion sans avoir mal. Voilà.
D'accord.
Je pense qu'on est plus complices qu'avant parce qu'en fait, on va dire que nos six enfants, enfin les six enfants sont à nous quatre.
Ouais.
Quand on est tous ensemble chez moi, les six enfants, ben voilà, on les éduque à quatre sans problème. Et puis ils les acceptent bien, donc.
Oui, bah, surtout que la plus petite chez toi, elle a quand même sorti qu'elle avait deux mamans maintenant.
Ah bah, oui. Ouais, parce que c'est notre amour qui fait qu'on a allaité Ellie à deux,
ouais.
Tu vois.
Et qu'on va l'élever à deux.
Ouais.
Enfin, à trois.
À quatre.
Oui, à quatre, c'est obligé. Mais à deux mamans et ouais. Deux papas.
Ouais. Ouais.
France Culture, les pieds sur terre.
Emmanuel, Stéphane et Mara vivent tous ensemble dans une grande maison, mais ce ne sont pas des polyamoureux. Emmanuel et Stéphane sont un couple et Mara est célibataire. Ils ont décidé d'avoir des enfants tous les trois. Et comme la vie est bien faite, ils ont eu des triplés.
Non, je ne vais pas dormir ici. Je vais partir quand vous serez en train de dormir.
En général, ils s'endorment bien.
Oui, ils s'endorment rapidement. Mais depuis tout petit, sauf Alice, elle a toujours été la plus tonique. Depuis les ventres, parce que déjà dans les ventres, c'était elle qui bougeait le plus. C'était elle.
Mais comment vous arrivez à distinguer les uns des autres dans le ventre?
Parce qu'il ne bougeait pas, comme il y avait trois poches. Du début, on savait où ils étaient. Donc chacun avait sa position et donc on a pu les nommer rapidement.
Léo était en bas, c'est le premier qu'on a nommé, c'était le garçon. Et après les deux autres, si moi je me souviens, c'était très bizarre parce qu'il y avait un espace immense sur ce ventre, mais on arrivait à distinguer qui bougeait en fait.
Oui, et c'était Alice.
C'est surtout toi qui nous donnais les repères d'ailleurs.
Oui, non mais Alice, c'est celle qu'on voyait, on a les vidéos du ventre qui bouge, c'est elle, parce que Léo était en bas donc on ne voyait pas, et Béatrice était derrière selon l'échographiste.
Est-ce que vous pouvez me raconter
Comment s'est née cette idée?
On était au travail. Et
je crois que c'est Mara qui m'a dit, c'est même sûr, c'est Mara qui m'a dit, je sais plus,
on parlait du tatouage.
Ouais. Et comment on en est arrivé à parler des enfants?
Je sais plus. En fait, à un moment, j'ai fait je dis un truc comme ça, mais oui, on devrait faire des enfants. Parce qu'on parlait, et à un moment, on devrait faire des enfants.
Et j'ai dit chiche, ou un truc de genre.
Tu aurais le courage, mais tu es sérieuse, hein? Tu m'as dit, t'es sérieuse? Et j'ai répondu un peu oui, un peu non. Voilà. Et après, là, c'était la première fois. Après, pendant longtemps, pas longtemps, en réalité, parce que tout allait très vite, mais ouais. Ça c'est...
Alors, moi, je m'étais résolument convaincue que j'aurais pas d'enfant, je pense. C'est-à-dire que... Mais j'ai longtemps pensé que c'était impossible, parce que voilà, moi, je suis un homosexuel vieillissant qui a déjà eu du mal à s'assumer. Donc, voilà, je suis devenu PD avant que les PD fassent des enfants, que ça devienne à la mode, donc... Voilà, j'étais pas vraiment dans le trip. Après, j'ai rencontré Stéphane, on a quand même vécu combien de temps ? 17 ans à deux. Moi, je dirais qu'au départ, il y a eu une espèce de décalage. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la façon dont ils s'en sont parlé tous les deux, ils avaient un temps d'avance sur moi. En fait, leur désir à deux... il a fallu qu'ils attendent que ça provoque le mien. Alors ça aurait pu ne pas le provoquer. Mmh. Et ça l'a provoqué, en fait. Je dirais qu'il y a eu 3 mois de battements, comme ça, où je me suis beaucoup interrogé, où je me suis aussi beaucoup posé de questions sur leur relation. Voilà, qui était... c'est-à-dire le désir de faire des enfants ensemble. Il y a un moment où je me suis demandé quelle serait ma place là-dedans. Je pense que Mara ne cesse de s'interroger sur quelle est sa place au sein d'une maison où vit un couple homosexuel. Quoi. Voilà, c'est...
Et vous pouvez me raconter le moment où vous avez appris que ce n'était pas un ou deux, mais 3.
En fait, l'idée, c'est de faire une seule implantation. Or, Mara, ayant 38 ans,
ils avaient dit
on en fera deux. Comme ça, on aura plus de chances que ça marche.
Le jour même du transfert, de l'implantation, ils sont arrivés avec la photo des trophoblastes qu'ils nous montrent. On voit qu'ils sont deux, donc on regarde ces machins. Et on se regarde et on demande, mais serait possible 3? La biologiste dit, mais attendez, je vais en discuter, je vais voir. Donc nous, on reste comme ça. Ils sont revenus avec 3 photos. Donc on voit les 3 et ils disent que c'est possible. En effet, votre âge, l'âge de Stéphane...
On augmente la chance qu'il y en ait qu'un.
Voilà, on augmente la chance qu'il y en ait qu'un. Voilà. Donc bon, on est parti faire le transfert.
C'est quand même la meilleure décision de notre vie. Et je me souviens... Le jour où on a appris, c'était lors de l'écho. Et alors, c'était,
non. C'est vrai. Si.
Et alors, quand il a dit, oui, je me souviens ce qu'il a dit. Il a dit, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Voilà.
Et il me demande combien vous envoyez. Parce qu'il y avait l'écran.
La réaction de Mara était estomaquée, comme ça. Moi, je me souviens, fou de joie. Wow. Et Emmanuel, terrorisé.
Moi, j'étais très angoissé sur l'après, c'est-à-dire effectivement comment on va faire, quoi. Moi, j'anticipais déjà, je me suis beaucoup renseigné sur ça boit combien de biberons par jour, donc je multipliais, enfin, voilà, parce que il y avait ce truc, on fait comment pour les promener, enfin, voilà, on est allé quand même essayer des poussettes à 3 places, qui étaient absolument ingérables, c'est des autocars, quoi. Voilà, donc c'est, et puis, en même temps, Mara, qui a très vite été alitée, donc était à la fois, on était très présent, à l'hôpital et en même temps on organisait, voilà, je me souviens qu'on a fait la chambre.
Mais moi j'ai pas du tout participé,
voilà,
à ça.
C'est-à-dire que Mara n'a pas du tout vu les lits, la chambre installée, le truc, c'est-à-dire qu'en fait elle est restée à l'hôpital d'octobre à janvier.
Donc on a passé Noël, Nouvel An là-bas avec des amis. Nous on y passait tous les soirs. Oui. Donc on était tous les soirs là-bas, on mangeait là-bas et puis ensuite après on allait se coucher. Et je me souviens que le reste du temps on organisait à la maison Emmanuel et moi l'arrivée de Mara, des bébés, c'était génial. On était morts de fatigue. Je me souviens c'était non. Mais il y avait ce côté Mara, ce côté princesse zen. Il y avait un truc absolument génial de permettre à une maman d'être bien, tranquille, de couver. Enfin, non, c'était très beau. C'était très beau, ouais. Vraiment, c'était un super souvenir.
Pour moi, tout le monde était très inquiet, oui, les collègues de travail. Ils me disaient, mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Tu vas mourir, les enfants vont être prématurés. Mais comment vous allez faire?
Ils sont où vos parents?
En Italie. Début, c'était l'incompréhension. Ils étaient très inquiets pour moi, je pense. Mm. Pour moi, et donc ils ne comprenaient pas parce que moi j'ai annoncé tout d'un coup. Que j'étais enceinte, que c'était des triplés, et c'était avec un couple.
Je crois que l'inquiétude qu'ils avaient, en fait, après, quand on en a pu en parler un peu, l'inquiétude qu'ils avaient, c'était qu'il y ait quelque chose d'un commerce. C'est-à-dire qu'en fait, deux mecs ont mis la main sur une nana pour lui faire un enfant, et puis qu'ensuite, une fois qu'ils auront l'enfant, ils pourront se débarrasser de la nana. Je crois qu'il y a ça. Et nous, on était tellement éloignés de cette... Et quand ils se sont rendus compte qu'on n'était pas du tout là-dedans, qu'on avait vraiment envie...
Qu'on est parti assez rapidement après en Italie.
Ouais. Comment ils se sont rendus compte qu'ils se trompaient?
Il y a eu une sympathie immédiate de ma mère à l'égard d'Emmanuel. Donc c'est comme ça qu'ils ont intégré, je pense, que c'est pour ces mouvements-là.
Parce que je suis le moins fou des trois, en fait. Ils avaient tout de suite compris que...
Et tout le monde disait, heureusement, il y a Emmanuel. Donc la situation, c'est tout... Voilà, je dis, ben voilà.
Et moi, de mon côté, c'était... Bon, c'est plus compliqué parce que mes rapports avec mon père sont assez à distance, quoi. Mais en fait, quelque chose de l'ordre de, alors déjà de la séparation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Stéphane qui faisait des enfants avec Mara. Je me souviens de ma belle-mère qui me disait, mais vous étiez si bien tous les deux, quelle idée, quelle drôle d'idée, voilà. Et puis surtout aussi le fait, alors ça c'est très familial, c'est je me fais avoir, quoi, voilà. C'est le fait, il se fait avoir.
Moi, ma mère était ravie.
Oui, parce que c'était pas les papillons et les étoiles tout le temps. Hein.
Ah non, très loin de là. Lorsqu'on a été à Barcelone, le jour de l'insémination, on s'est engueulé. Mara disant, mais moi je resterai seule, je suis seule, de toute façon vous êtes deux, moi je suis seule, tu te souviens? C'était dur, on a tous eu des moments super durs. Des moments de solitude, ouais.
Et l'arrivée des enfants, alors?
C'était génial.
Je me souviens qu'on est parti avec Léo, en fait. On n'a pas vu les deux.
Autres,
et que le médecin qui arrivait avec un et puis deux, qui disait, et voilà Béatrice, et voilà Alice, parce qu'il savait exactement, chacun des accoucheurs savait exactement qui il allait accoucher. Et de plus savoir où donner de la tête, c'est-à-dire que j'avais à peine regardé Léo, qu'il y avait déjà le deuxième, puis après le troisième. Et puis après, je me souviens de m'être retrouvé face à un enfant et quelqu'un du personnel qui me dit « Non, celui-là, c'est pas à vous, parce qu'il y avait d'autres accouchements. » Oui, il y avait d'autres enfants. Voilà, je savais plus lesquels. Et avec une vague panique en disant « Mais ils font comment pour les reconnaître ?» Voilà. Il y a eu quand même des moments à la maison, par exemple. Alors, il y a eu un moment où on dormait tous ensemble, par terre, sur des futons, parce que, les bébés au centre. Et puis, après, on a trouvé ça délirant parce que plus personne dormait. Voilà, il n'y a que les enfants qui dormaient. Et après, alors, on s'est séparés, mais c'était là, pour le coup, c'était chacun un lit. Et quelquefois.
Un futon.
Dans une pièce. Et il y a eu ce moment-là, parce que moi, je me souviens très bien que, par exemple, j'allais endormir un des trois, et je m'endormais avec, près le biberon, et qu'en me réveillant pour le biberon suivant, j'avais plus le même à côté.
Non, mais là, c'est parce qu'on...
Il y avait une espèce de turnover.
Ah, vous allaitiez les trois.
Oui, donc il fallait les faire tourner. Comme on était comme un rond à dormir, après avoir allaité un, quand je les posais, il fallait les mettre devant l'autre. Il fallait avoir les bons enfants et pas allaiter toujours les mêmes, parce qu'il fallait faire une fois chacun.
Et est-ce que vous pouvez me dire, chacun l'un après l'autre, comment vous appellent les enfants?
Alors moi, c'est Daddy. C'est-à-dire qu'au début, c'était, il y avait Papa Emmanuel, Papa Stéphane, mais
c'était trop long.
C'est trop long et trop compliqué, parce que on sent que commence à se former, même si les mots sortent pas, mais il y avait déjà du maman, papa, voilà. Et Daddy, c'est facile aussi, quoi. dans le, je dirais, l'imaginaire des enfants aujourd'hui, c'est, ça ne fait pas un pli que les autres ont un papa, une maman et un daddy.
Quand tu on a été au zoo,
ils réussissent à chercher les papas, les mamans, les daddies chez les singes.
Chez les singes qui sont très nombreux.
Ouais. Moi, ils m'appellent papa. Et
maman ou maman.
Moi, je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est moi, en fait. C'est d'être parent, malgré tout, en fait. De me sentir parent. Enfin, malgré le fait que je ne sois pas le géniteur. Mais en tout cas, maintenant, ça ne fait pas un pli. Je suis le parent de ses enfants, quoi. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, eux le savent aussi. C'est... Oui. Comment ils nous appellent les parents ?
Les parents.
Les parents, voilà. Il faut des parents pour faire tel jeu.
Là, c'est la situation aujourd'hui. Mais Mara, par exemple, si un jour vous rencontriez quelqu'un, vous avez réfléchi à ça ?
On verra.
Tu penses ?
Pas vraiment, mais voilà, je ne pense pas trop dans ces termes.
C'est-à-dire que ce qui serait difficile, c'est pas tant d'imaginer que tu auras un amant. Ça se pense pas en ces termes, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça serait difficile d'imaginer, pour moi en tout cas, d'imaginer quelqu'un qui viendrait vivre à la maison sans être parent, en fait.
Il y a eu un moment où je pensais, mais comment, si je rencontre quelqu'un, comment on va ? Est-ce qu'il va venir vivre ici ? Est-ce qu'on fait un étage encore en plus ? On peut, la mairie dit qu'on peut, on peut même bâtir dans le jardin, donc il y a plusieurs possibilités. Et ce que je me dis, c'est qu'on verra si je pense que comme on est arrivé jusqu'ici, on arrivera à faire avec, il y aura la bonne solution. Havana, oh nana, half of my heart is in Havana, oh nana, he took me back to his Atlanta, nana, oh but my heart is in Havana. Something about his manners, Havana, Havana. He didn't walk up without how you doing. Ooh, when he came in, he said there's a lot of girls I can do with. Oh, but I can't without I'm you. I'm doing forever in a minute. That's a night. And Papa says he got my love in him. He got me feeling like ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him.
Polyparents, c'était un reportage d'Adila Benedjaizou, un épilogue peut-être ou une suite à sa série PMA hors la loi que je vous conseille d'écouter ou de réécouter en podcast. Il y a un podcast spécifique PMA hors la loi. C'était une émission réalisée par Anne de Pelcha avec un coup de main de Clémence Grosse. Merci aux coparents, bien sûr, et à Cécile Lafonce, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.